Aujourd'hui, on accueille un représentant de l'association GAR, les LGBT+, et allié du groupe SNCF. L'objectif est simple, comprendre concrètement ce que fait l'association, comment elle fonctionne au quotidien et surtout ce que ça change sur le terrain pour les agents et les établissements. Kylian, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours et nous raconter comment tu as rejoint l'association ?
Ouais, avec plaisir. Alors moi je suis Kylian Chaplin, donc je suis secrétaire général de l'association GAR. J'ai rejoint l'association je crois en 2021, donc en réalité très peu de temps après avoir rejoint le groupe SNCF en 2020, parce que j'ai moi-même rencontré dans mon parcours quelques difficultés et des propos pas très sympas de la part d'autres agents. Et mon formateur à ce moment-là, qui connaissait l'association GAR, m'a mis en lien avec les dirigeants de l'époque, et c'est vraiment mon premier pas dans l'association. Et donc à mesure que j'ai découvert l'association, ça m'a vraiment plu et j'ai eu envie de m'y engager, et ce qui explique aussi mes fonctions aujourd'hui et ma présence ici à votre micro pour parler de tout ça.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quoi exactement l'association GAR ?
Alors l'association GAR, donc c'est comme tu le disais, l'association des LGBT+ et alliés du groupe SNCF. C'est une association qui existe depuis octobre 2000. Et pourquoi cette temporalité ? Donc elle a été créée à ce moment-là pour faire suite à la création du PACS et au vote du PACS en 99. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément le PACS, c'est un peu le premier type d'union qui était possible pour les couples de même sexe avant que le mariage soit légalisé en 2013. Et donc les agents paxés, donc qu'ils soient hétéros, homo ou LGBT, peu importe, avaient des difficultés pour faire reconnaître leur pax au sein de l'entreprise et pour obtenir notamment les facilités de circulation internationales. Et un collectif d'agents s'est réuni, a créé l'association pour porter en tant que collectif un peu l'accès à ce droit-là, qui était juste une mise en conformité avec le droit national, ce qu'ils ont fini par obtenir. Et ensuite, l'association a un peu suivi toutes les évolutions sociales et sociétales, en militant par exemple en 2013 pour le mariage pour tous, parce qu'en tant qu'association, on garde notre côté militant, même si le gros de notre travail s'inscrit vraiment en interne dans l'entreprise pour accompagner les collaborateurs et collaboratrices.
Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'association ?
Alors du coup, on est plusieurs centaines d'adhérents. Donc quand je dis adhérents, c'est vraiment des agents, des sympathisants, des retraités qui ont fait l'effort de nous soutenir au travers d'une cotisation. Après, il y a plusieurs milliers de personnes qui nous suivent, donc qui n'ont pas forcément adhéré à l'association, mais qui vraiment approuvent notre combat et ont envie de suivre un petit peu ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment la partie adhérents et les personnes qui nous suivent. Après, au niveau du conseil d'administration, on est environ une quinzaine de personnes, donc des administrateurs qui sont vraiment engagés, je dirais pas à temps plein parce qu'on a nos métiers à côté, mais qui sont vraiment engagés pour faire évoluer le droit et aussi des sujets spécifiques en entreprise. Et on a après des consultants qui, eux, s'engagent, on va dire, en fonction de leur temps, sur des sujets qui les font vibrer, qui les animent un peu.
Est-ce qu'il faut être personnellement concerné pour s'engager, ou est-ce que tout agent peut vous rejoindre ?
Alors pas du tout. Moi j'ai envie de, en général quand on me pose cette question, j'ai plutôt envie de retourner la question et par exemple de vous dire est-ce que parce que je suis un homme, je suis pas concerné par les sujets de sexisme et d'égalité femmes-hommes ? Mm-hmm. En fait c'est exactement la même chose pour les personnes LGBT+. C'est pas parce qu'on est hétéro ou qu'on n'est pas concerné, en tout cas directement par le sujet, qu'on peut pas s'inquiéter de comment sont traités les collaborateurs qui ont une orientation sexuelle qui diffère ou une identité de genre qui peut différer de la norme. Et pour vu que c'est un podcast, je vais mettre des guillemets parce qu'on ne voit pas faire de mimique, mais ouais, donc pour tous ceux qui peuvent s'écarter de la norme entre guillemets, on a besoin du soutien de tout le monde, qu'on soit concerné ou pas.
Si on rentre dans le réel, à quoi ressemble une journée type dans l'association pour toi ?
Alors pour le coup, cette question est un peu complexe parce que en réalité, je crois pas qu'il y ait vraiment de journée type dans l'association. Mais c'est vrai que ça soit moi ou que ça soit d'autres personnes au sein de l'association, on a tous des journées différentes. Donc moi, on va dire que j'ai mes fonctions au sein de la SNCF, donc je suis chef de bord chez TGV Inouï. Mais à côté de ça, on va dire que un peu tous les jours, des fois, je vais avoir un petit mail à traiter sur une sollicitation, etc. Et par contre, il y a des moments où je vais vraiment réussir à me dégager une journée, donc soit sur du temps dédié par l'association, soit sur mon temps personnel, pour vraiment travailler sur des sujets de fond, sur l'organisation générale de l'association, et donc aujourd'hui un peu un podcast, même si c'est pas le format le plus courant, je t'avoue, mais on a aussi pas mal de sensibilisations qui peuvent se faire en présentiel, donc on a un stand et les agents peuvent venir à notre rencontre pour échanger avec nous un petit peu sur les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est LGBT au sein de l'entreprise, mais aussi comment en tant qu'allié on peut s'associer à cette cause pour essayer de faire de l'entreprise un milieu un petit peu plus inclusif chaque jour.
Et par exemple, vous passez plus de temps à faire de la sensibilisation collective ou à accompagner des situations individuelles ?
Si tu m'avais posé cette question il y a quelques années, je pense que ma réponse aurait été un petit peu différente. Actuellement, je pense qu'on a un gros tiers de sensibilisation en présentiel auprès d'un public assez large, donc vraiment pas des sensibilisations qui sont ciblées, enfin pour reprendre tes termes, pas des accompagnements en tant que tels. Donc on a vraiment un gros tiers de sensibilisation, donc c'est un peu des stands qu'on tient souvent dans le cadre de forums de mixité, etc. Donc ça, un gros tiers. Ensuite, on va avoir un petit tiers où là c'est plutôt des accompagnements d'agents. Donc on a plusieurs cas de figure dans ce genre d'accompagnement. On va avoir des accompagnements pour des agents qui malheureusement ont subi des discriminations, et donc là il s'agit d'intervenir un petit peu en tant que pompier pour faire un peu des rappels sur ce que sont les LGBT-phobies, le fait que c'est interdit, ce qu'on risque, etc. Mais ça c'est vraiment pas la majorité des accompagnements individuels. On a maintenant une grosse part d'accompagnement individuel qui concerne les personnes trans ou des personnes qui souhaitent entamer une transition de genre. Et nous, on trouve ça plutôt positif. Donc, pour éteindre un petit peu tout de suite les critiques, il ne s'agit pas de dire que c'est un effet de mode et que y en a de plus en plus parce que y en a de plus en plus parce qu'on en parle. Pas du tout. En réalité, ça a toujours existé. Le problème, c'est qu'avant, ces personnes-là avaient tendance à sortir de leur milieu professionnel, donc soit attendre la retraite, soit démissionner, soit être en arrêt maladie ou un congé sabbatique pour effectuer leur transition de genre, mais vraiment en dehors du cadre professionnel, et elles revenaient ou pas au sein de l'entreprise. Ce qu'on remarque maintenant, et c'est là où c'est plutôt positif, c'est qu'en fait, la transition, elle peut intervenir aussi dans le milieu professionnel sans forcément s'arrêter de travailler pendant une longue durée. Et c'est là où le rôle de l'association est vraiment essentiel, c'est que dans ces interventions-là, on va aider et la personne concernée et son manager, son ou sa manager, qui peut se retrouver un peu démuni face à cette situation et à qui on va apporter des éléments concrets pour accompagner son agent au mieux, et aussi le collectif de travail, parce qu'en fait, des fois, on ne va pas forcément dire des choses dans l'intention de nuire, mais on peut juste avoir une méconnaissance ou un manque de connaissance sur le sujet. Et donc, c'est tout le rôle de l'association. Donc, pour résumer, en réalité, je pense que les interventions qu'on fait, un tiers effectivement de sensibilisation un petit peu collective, et on va avoir aussi un tiers d'accompagnement personnalisé. Et au sein de ces accompagnements personnalisés, donc comme je te le disais, une minorité d'accompagnement qui concerne des gens qui auraient été victimes de discrimination, et le reste des personnes qui souhaiteraient entamer une transition de genre ou qui ont besoin de notre accompagnement juste pour les aider à être qui ils sont au sein de l'entreprise.
Quand quelqu'un vous contacte concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous intervenez?
Alors, depuis un an et demi maintenant, on a mis en place un point d'entrée unique sur notre site. Donc, notre site, c'est asso-gare.org. Et depuis notre site internet, il y a un formulaire de contact qui permet de déposer une demande. Donc, j'invite celles et ceux qui nous écoutent, si jamais ça les intéresse, à aller sur notre site et à regarder eux-mêmes le formulaire de contact. Mais on a plusieurs catégories qu'on va pouvoir choisir dessus. Donc, par exemple, si moi je suis, je travaille au sein du service RH de l'établissement, que je souhaite faire intervenir l'association Gare, et ben il va y avoir une petite case à cocher, demande d'intervention, forum mixité, etc. C'est le moment de dire que c'était incroyable, que c'était très pratique. Non, je te charrie. Mais du coup, on a mis aussi ce point d'entrée unique pour assurer un meilleur suivi de nos demandes, parce que auparavant on avait vraiment des points d'entrée un petit peu de partout, et c'était difficile face à l'augmentation du nombre de sollicitations d'en assurer un suivi qui soit pertinent. Je ferme ma petite parenthèse sur le formulaire de contact. Et donc, pour les personnes qui nous contactent via celui-ci, on va pouvoir ensuite consulter la demande avec certaines informations qui sont liées à la catégorie qu'on aura renseignée. Donc, par exemple, pour une demande d'intervention, on va avoir le lieu, la date, le format envisagé, etc. Et donc ensuite, un administrateur, donc globalement c'est souvent moi qui gère les demandes de contact, mais un administrateur va pouvoir prendre à bras-le-corps cette demande. Et donc à partir de ce moment-là, en fonction de la date ou de la période concernée qui est envisagée, on va sonder nos administrateurs et nos administratrices ainsi que nos consultants et consultantes pour leur demander si certains sont disponibles pour intervenir sur telle date. Et à partir du moment où on a réussi à recueillir suffisamment de disponibilité, souvent on intervient à deux pour des stands, parce que être tout seul, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, parce que quand il y a un peu des périodes de pointe où il y a plein de monde, on peut vite être un petit peu débordé et ça dégraderait un peu la qualité de l'intervention. Donc souvent il faut au moins deux personnes pour intervenir. Et à partir du moment où on a ces deux personnes de disponibles, on va pouvoir confirmer l'intervention à la personne, ou à l'établissement qui nous a sollicité.
J'imagine que certaines situations peuvent être sensibles. Est-ce que vous êtes formé pour accompagner ce type de sujet ?
Alors effectivement, je pouvais l'évoquer tout à l'heure, dans les cas d'accompagnement individuel, notamment pour les personnes qui ont été victimes de discrimination, on fait face parfois à des situations humaines qui peuvent être un petit peu compliquées. Après, nous, on n'est pas seuls non plus. Comme je le disais, l'association, elle travaille vraiment avec le groupe SNCF et on a une convention avec la direction des ressources humaines du groupe SNCF qui nous accompagne notamment dans les cas les plus sensibles. Et après, effectivement, je dirais, on fait un peu avec notre sensibilité et notre vécu qui nous a permis aussi de mieux appréhender et de mieux accompagner des personnes qui, à leur tour, ont pu être victimes de discrimination ou, sans parler de discrimination, de moments pas très sympas dans leur vie au travail tous les jours.
Est-ce que vous intervenez aussi auprès des managers pour les former ou pour les sensibiliser ?
Oui, effectivement. Et pour rebondir sur ce dont je parlais tout à l'heure, l'accompagnement des personnes trans, ça représente un gros enjeu aussi pour les managers. Et l'association a notamment développé un guide à destination des managers qui permet de tracer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'une transition de genre, avant reconnaissance du changement à l'état civil et après, parce que en réalité, au sein de l'entreprise, il y a des choses qu'on peut modifier avant le changement de civilité ou de prénom à l'état civil. Par exemple, tu prends le passe carmillon, l'adresse mail, ton nom sur le planning. Ça, c'est des éléments que tu peux modifier sans reconnaissance à l'état civil. Donc l'entreprise peut le faire. Et c'est même important que l'entreprise le fasse, parce qu'en réalité, quand la personne va faire sa demande auprès de l'état civil, il faudra qu'elle justifie qu'on l'appelle justement par ce prénom-là et que c'est vraiment son prénom d'usage et le prénom avec lequel on l'appelle tous les jours, quoi, si j'ai envie de dire. Donc c'est là où l'entreprise a aussi un rôle, parce que après ça peut être aussi dans le cadre familial, amical, etc. Mais l'entreprise, c'est quand même un milieu important et qui représente une bonne part de nos journées. Mmh. Donc on peut effectivement accompagner les managers sur ce qu'il est possible de faire, comme je disais, avant ce changement à l'état civil. Par contre, il y a certaines pièces légales, comme la fiche de paix, qui n'est pas possible de modifier, à moins qu'il y ait eu un changement à l'état civil qui soit reconnu. Et donc, c'est là aussi où notre accompagnement envers les managers, il va être important, parce que ce sujet-là, il n'est pas forcément connu de toutes et tous, et c'est pas grave. Enfin, c'est aussi le rôle de l'association que de former, de sensibiliser et de faire apprendre de nouvelles choses sur cette thématique. Et donc effectivement, comme je te le disais, on est vraiment en soutien des managers. Donc ça peut être, là, c'est vrai que je fais le focus sur les personnes trans, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'on a un gros focus sur l'accompagnement des personnes trans, parce qu'en réalité, c'est ce qui est le plus méconnu. Mmh. Et c'est le sujet sur lequel on a le plus besoin d'accompagner, que ce soit le collectif de travail, les agents eux-mêmes, mais aussi leurs managers.
Depuis la création de l'association, qu'est-ce que tu as vu évoluer au sein de la SNCF ?
Alors, à titre personnel, j'ai 24 ans, donc comme je te le disais, l'association a été créée en octobre 2000, donc pour le coup, je ne pourrais pas te faire tout l'historique depuis octobre 2000. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que en 5-6 ans, depuis que je suis à la SNCF et depuis que je suis dans l'association, j'ai vraiment vu des choses évoluer, que ce soit sur le terrain, même si sur le terrain, c'est quand même globalement un travail de longue haleine, mais aussi au niveau de la direction et de la direction du groupe. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on est vraiment partenaire de la, du groupe SNCF au travers d'une convention, convention qui existe depuis 2013, donc 2013 date de la légalisation du mariage pour tous. Et cette convention, elle fixe un certain nombre de moyens, que ce soit nos locaux, un certain nombre de moyens financiers, mais aussi en termes de temps pour nous, nous dégager sur nos missions habituelles pour pouvoir travailler sur, sur l'association. Et je dirais que ce qui a pu évoluer, c'est vraiment le soutien aussi de la direction qui, depuis plusieurs années, s'est vraiment accentué. C'est vraiment plus qu'une façade. Il y a vraiment une envie concrète de faire évoluer les choses. Et il y a des exemples concrets de ça. Par exemple, il y a 2 ans ou 3 ans, la SNCF a signé la charte de l'Autre Cercle. L'Autre Cercle, une association de référence dans le milieu de l'entreprise, puisqu'en gros, ils ont créé une charte LGBT+, qui permet de mesurer les LGBT-phobies en entreprise et de mettre ensuite des actions en place pour les faire diminuer. Et par exemple, en octobre pardon, de l'année dernière, on a organisé, nous, l'association Gare, en lien avec la DRH du groupe, un séminaire qui s'appelle Trainbow Europe et qui réunit un peu nos équivalents de plein de pays européens. Et donc chaque année, l'organisation est gérée par un autre pays. Et donc l'année dernière, c'était nous, c'était la France, et on a été très heureux de pouvoir échanger avec nos homologues européens. Et je fais une petite digression, mais ça me semble important et pas complètement en décalage par rapport à ta question, mais par rapport à ce que nos homologues européens ont pu nous dire, on remarque quand même que la SNCF est un peu à contre-courant, mais de manière positive, c'est-à-dire que son soutien s'accentue, là où dans d'autres pays et dans d'autres entreprises européennes, le soutien stagne, voire régresse. Et c'est là aussi où c'est important, et l'entreprise, la SNCF en tant que grande entreprise française a aussi un rôle sociétal sur le fait de soutenir ce type de démarche et ce type d'association qui vise à un peu plus d'égalité et d'inclusion.
Tu parlais de terrain. Est-ce que, selon toi, est-ce que les mentalités, elles changent réellement sur le terrain ?
Alors, je vais être honnête avec toi. Des personnes qui sont homophobes et qui le sont, homophobes ou transphobes, peu importe, de manière générale, des personnes qui discriminent d'autres personnes, que ce soit en vertu de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur ethnie, etc. Les logiques de discrimination, elles sont les mêmes. Et globalement, les gens qui sont racistes, qui sont homophobes, quand c'est par conviction, c'est pas eux qu'on arrivera à faire évoluer. Par contre, ceux-là, on peut leur rappeler qu'il y a un cadre légal au sein de l'entreprise et que ce cadre légal, il est là aussi pour rappeler qu'on ne peut pas dire n'importe quoi quand on est dans le cadre de ses fonctions dans l'entreprise, parce que juste pour le bien vivre ensemble, on ne peut pas se permettre de tenir des propos qui pourraient blesser d'autres collaborateurs. Donc, il y en a certains qui ont leurs opinions. J'ai envie de dire soit, peut-être qu'on ne les fera pas évoluer, mais après, il y a et le cadre réglementaire dans l'entreprise. Et en dehors de l'entreprise, il y a le cadre légal. Et si ces personnes contreviennent au cadre légal, il y a sanction. Voilà, que ce soit en interne dans l'entreprise ou à l'externe, par un tribunal. Par contre, il y a des gens qui, parfois, ne maîtrisent pas forcément ce sujet-là, ou alors ont des interrogations, mais n'ont pas forcément pu avoir les réponses jusqu'à maintenant. Et par contre, auprès de ces personnes-là, il y a vraiment un rôle de sensibilisation et d'éducation qui est important. Parce qu'en fait, ces personnes-là, quand elles vont apprendre quelque chose sur ce sujet-là, elles pourront ensuite le transmettre à d'autres personnes. Et il y a un petit peu un effet d'écoulement comme ça qui permet de toucher un maximum de monde.
Et pour finir, très concrètement, en quoi une association comme la vôtre peut être un appui utile pour un établissement comme le nôtre ?
Eh bien, j'ai envie de dire, étant donné que nous, en tant qu'association, on a une convention avec le groupe, mais on est quand même suffisamment en retrait pour apporter un point de vue qui soit neutre quand on arrive dans un établissement. Et je pense que c'est important de garder ce point de vue qui soit neutre, sans forcément qu'il y ait d'influence extérieure ou de pression, parce que ça nous permet ensuite de dire ce qu'il en est, ce qu'on a pu constater, et de mettre les mesures en place en lien avec l'établissement.
Merci pour cet échange. Ce qu'on retient, c'est que derrière le mot inclusion, il y a des actions concrètes, des personnes engagées et un vrai travail de terrain. Pour notre établissement, c'est aussi un rappel que ces sujets ne sont pas à part. Ils font partie du climat social, de la qualité de vie au travail et du respect au quotidien. Merci encore pour ton engagement et pour ton temps. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau podcast.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli et peut-être au plaisir de vous rencontrer bientôt en présentiel.
Merci à toi.